Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous. Soutenez-nous au poste.fr.
Et non, ça ne dure pas 3 heures, comme dit Jean-François Corti, un de nos invités qui vient d'arriver. Ça va durer 1h30 parce que ces messieurs-dames ont des obligations. Ces messieurs-dames, c'est pas n'importe qui. Bonjour Agnès Levallois. Pardon pour la photographie de l'annonce. Vous êtes... je ne sais plus, vous êtes présidente ou vice-présidente ?
Présidente. Depuis le mois de mai, je suis présidente.
C'est ça, parce que quand on s'était vu, vous étiez vice-présidente, mais votre passage au poste a été déterminant. Vous voici donc présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, petit nom, l'IMRO.
L'IREMO.
Et vous étiez venue, et ça avait été un sacré moment, pour le livre noir de Gaza, sur Gaza, il y a...
Un an et demi, quelque chose
comme ça. À côté de vous, Jean-François Corti, veste militaire, président de médecins, c'est tout en kaki, hein. président de Médecins du Monde, c'est bien ça ?
Absolument.
Tu n'as pas rétrogradé depuis tes nombreuses apparitions au poste ?
Non, pour l'instant, non. Ah. Ça m'a valorisé de venir te voir.
C'est pas vrai.
Ouais, c'est dingue.
C'est pas vrai. Et à côté de vous, Akessa Moum, c'est bien ça ? Comment ? Moumi. Moumi, alors qui est très impressionné d'être à côté de vous, mais il n'y a aucune raison. Vous êtes chercheuse, vous avez vécu au Liban, à Beyrouth, c'est bien ça ?
J'ai vécu à Beyrouth, à Nabati et à Tripoli pendant un an et demi.
Alors, il faut mettre un tout petit peu le micro ici.
Je ne suis pas très douée avec le micro.
Comme ça,
plus en amphi que
voilà, il faut,
la télé.
Alors, Guillaume Meurice, qui était là il n'y a pas longtemps, il dit qu'il faut le coller au menton. Et comme ça, quand... Vous bougez, le micro bouge avec vous. Voilà.
Parfait,
la technique
ça,
Guillaume Meurice. Voilà. votre thèse porte ?
Sur les écoles de la mission laïque française au Liban, donc sur l'enseignement français au Liban.
Voilà. Et on va parler avec vous, évidemment, des relations franco-libanaises à un moment donné ou à un autre, puisqu'il y en a eu, il y en a, il y en aura peut-être, il n'y en a peut-être pas. J'ai titré, dites-moi tout de suite si je me trompe, 1100 morts, 1 million de déplacés. Au Liban, est-ce que ce sont les chiffres que vous avez les uns et les autres ?
Oui, je crois qu'on a même un peu plus maintenant, on est peut-être plutôt à 1200 morts, me semble-t-il. Mais enfin, bon, on a dépassé en tous les cas le chiffre de 1000, ce qui est déjà absolument énorme. Et le chiffre de 1 million de déplacés est complètement, effectivement, aujourd'hui attesté par toutes les ONG, mais je pense que Jean-François sera plus compétent que moi en la matière.
Oui, les derniers chiffres, c'est 1 200 000 hein, déplacés. C'est... 1300 morts, c'est des milliers de blessés aussi. Et puis surtout, ça rajoute à la dramaturgie de la situation, c'est une soixantaine de soignants et secouristes qui ont été tués, dont la plupart délibérément, par les bombardements israéliens. Donc voilà, on est dans une configuration de déplacement massif de population qui relève probablement de crimes de guerre et d'un contexte d'une crise humanitaire d'ampleur qui est en train de se créer, qui est en train d'être construite sur un pays qui est déjà... en souffrance économique et en souffrance tout court.
Voilà, l'idée ce matin, c'est vraiment de vous écouter, d'essayer de comprendre et d'apprendre sur ce pays dont tout le monde se targue le connaître, savoir ce qu'il faut faire pour lui, etc. Et en fait, on n'en sait pas grand-chose. Enfin, vous aussi, parce que vous travaillez dessus ou vous travaillez dedans, etc. La situation, en gros, est-ce que si on faisait si ça a un sens, si on avait ça en France, ce serait 10 à 15 millions de gens qui seraient déplacés. Puisqu'il y a combien d'habitants au Liban ?
Oui, proportionnellement. Ouais.
Proportionnellement.
Enfin, il faut imaginer qu'avant même cette situation que l'on vient de décrire et sur laquelle on va discuter, c'est déjà un cinquième, un quart de la population qui sont des réfugiés, une majorité de réfugiés syriens et palestiniens. Qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, dans un contexte économique sur lequel on reviendra aussi, qui est difficile, avec un accès aux soins, qui est le sujet que Médecins du Monde aborde, qui est aussi mis en tension, que ce soit dans la Bécane, au sud du Liban, enfin partout. Donc voilà, on part sur ce terrain-là et on y rajoute une composante de déplacés, notamment du sud, en grande majorité, du Liban, qui vient s'ajouter aux réfugiés. Donc on a une composante de statut, je dirais, de déplacés internes, réfugiés, donc ceux qui ont franchi la frontière, qui est importante. Il y a certains Syriens, notamment, qui sont repassés de l'autre côté en Syrie, mais dans un contexte contexte encore assez volatile, ou même s'il y a une forme de stabilité qui s'est installée avec le nouveau pouvoir, il y a encore des exactions, de la violence, des combats régulièrement. Donc c'est pas un pays où on a envie d'aller naturellement, sereinement. Il y a encore 15 millions de personnes qui sont en insuffisance de besoins, enfin besoins humanitaires en Syrie. Donc voilà, il y a des mouvements de va-et-vient. Donc le Liban absorbe en fait depuis longtemps la souffrance, les violences de la région, et c'est aujourd'hui ce pays, comme il y a quelques mois et quelques années, qui se trouve en plus de cela au cœur même de la violence.
Akessa, je viens vers vous pour vous dire, surtout n'hésitez pas à prendre la parole, parce que vous savez, c'est des grands pros, hein, c'est des grands pros. Donc je vais avoir un œil sur vous et je vais vous faire... Allez-y.
Je voulais ajouter à ça aussi que c'est la première fois, donc par rapport au conflit de 2024, que les ordres d'évacuation, même si je trouve que c'est un mot très impropre, parce que les ordres d'évacuation ne sont pas donnés par l'État libanais, mais par l'autre État belligérant qu'est Israël, c'est la première fois que les ordres d'évacuation concernent des régions aussi grandes. On a fait évacuer quasi l'entièreté du sud Liban jusqu'à la ville de Saïda, qui est en fait très haut dans le sud Liban. L'entièreté des quartiers sud de Beyrouth ont été évacués pour la première fois. Donc c'est vraiment la première fois qu'il y a autant d'ordres d'évacuation, toute une partie de la bécale l'a été. Et que donc on a vraiment une concentration sur un tout petit territoire d'énormément de populations déplacées, qui par ailleurs sont aussi des populations particulièrement pauvres, puisque sociodémographiquement, une partie du sud Liban, la Bekaa, c'est aussi des zones plus rurales, qui sont plus pauvres, qui sont moins urbaines, et donc des populations qui sont dans une très grande difficulté avant même d'être déplacées, pour une partie d'entre elles en tout cas.
Agnès ?
Oui, ce qu'on peut peut-être maintenant ajouter à ce stade, c'est qu'en fait, on est vraiment dans la même stratégie menée par Israël que celle qu'il a menée dans la bande de Gaza, à savoir détruire absolument tout le sud Liban, dans un premier temps. Et ça, c'est la première fois qu'Israël va aussi loin dans sa stratégie qui vise à détruire absolument tous les villages dans le sud, jusqu'aux Litanies, ce qui est quand même une zone énorme, alors qu'il avait commencé, hein, puisque après le cessez-le-feu de novembre 2024, il y avait déjà eu, pendant la guerre, cette première guerre, enfin la première de la dernière séquence, hein, puisque des guerres, il y en a eu plusieurs, mais il y avait déjà eu beaucoup de destruction. Mais là, on a vraiment Israël a franchi une étape. Et en fait, Israël peut franchir cette étape supplémentaire, si je puis dire, dans la violence et dans la volonté de faire vraiment table rase de tous les villages en interdisant aux Libanais de revenir dans leur village. C'est ce qu'on a vu après le cessez-le-feu de novembre 2024, où moi, j'ai eu des témoignages de Libanais qui ont voulu retourner chez eux. À ce moment-là, des drones israéliens arrivaient sur leur voiture lorsqu'ils étaient en route pour rentrer chez eux, en leur disant « partez immédiatement, sinon on fait exploser votre voiture ». Donc, une volonté délibérée pour la première fois.
C'est-à-dire un par haut-parleur,
oui, absolument.
Qu'on comprenne bien. Un haut-parleur, ouais, survole votre voiture.
Et vous dit, monsieur machin, parce qu'ils ont les plaques, ils ont tout, donc toutes les identités, eh bien, rebroussez chemin, parce que de toute façon, sinon, on vous fait exploser. Et donc, autant dans les...
Là on est quand même dans la terreur...
Ah mais absolue.
Absolue.
Absolue. Et autant dans les guerres précédentes, il y a eu des l'occupation du territoire par Israël pendant des dizaines d'années, il y a eu un retrait, mais il n'y a jamais eu cette stratégie à ce point de faire partir définitivement les Libanais du Sud, tout comme la stratégie dans la bande de Gaza consiste à faire partir tous les Palestiniens d'une grande partie de la bande de Gaza pour les cantonner dans quelques réserves, si je puis dire, hein, dans quelques zones. Et au Liban, on voit bien qu'on est à nouveau dans cette stratégie parce qu'on a un Israël qui est complètement débridé aujourd'hui et qui sait qu'il peut faire absolument ce qu'il veut, ce qu'il n'avait jamais osé aller aussi loin avant le 7 octobre. Le 7 octobre a vraiment lâché quelque chose qui permet à Israël d'avoir testé sa stratégie dans la bande de Gaza, dont on ne parle plus, entre parenthèses.
Alors on va en parler.
Bien entendu. Et la stratégie qui est menée au Liban, et ça je pense que c'est important de le dire aujourd'hui, est exactement la même stratégie que celle qui est mise en œuvre dans la bande de Gaza, avec exactement la même violence, à savoir on détruit tout et vous ne pourrez plus jamais rentrer chez vous. Imaginez simplement un mot, tous ces Libanais qui ont travaillé toute leur vie à l'étranger souvent, qui sont rentrés au sud, qui ont construit enfin leur maison après vraiment une vie de travail dans des conditions, parce qu'il n'y a pas que les riches Libanais, il y a tout un tas, toute une population libanaise qui ne roule pas sur l'or, et qui là a tout perdu, se retrouve réfugié sur les routes au nord, et puis après on parlera des tensions communautaires que ça suscite.
Bien sûr.
et qui n'ont plus rien, avec un État qui est absolument incapable, évidemment, de prendre le relais et de leur assurer le minimum aujourd'hui.
Aujourd'hui, je vais vous écouter. Je ne vais être là que pour distribuer la parole. Je vois que les deux ont levé la main, mais Jean-François l'a levé avant vous.
Alors, Jean-François.
Je suis désolé. Alors, Jean-François, mais bon réflexe. Juste après, c'est à vous.
Oui, on a la continuité de ce que vient de dire Agnès. Le ministre des Finances, Smotrich, a annoncé qu'il ferait la même chose qu'à Gaza. Mmh. Et donc, c'est effectivement des bombardements massifs, délibérés, qui préparent notamment une invasion terrestre dans le sud du Liban, jusqu'au fleuve Nitali, tu l'as dit. Mais c'est aussi l'intention annoncée de raser le sud de Beyrouth. Et ça a commencé avec cette idée de bombardement massif, quasi indéterminé, où il n'y a aucun lieu sûr au Liban, où ça tape à tous les endroits. Ce qui renvoie effectivement à la stratégie militaire utilisée entre autres à Gaza, avec cette idée de faire table rase de quartiers entiers sans forcément s'assurer qu'il n'y ait plus de civils. La petite différence avec la dramaturgie de Gaza sur laquelle on reviendra, c'est que le Liban, c'est un peu plus grand. Ça reste un pays qui est enfermé par d'autres pays, dont la Syrie, Israël, et qui ne sont pas forcément des pays plutôt hostiles pour certains. Mais il n'y a pas cette même notion d'enfermement que sur Gaza, où on était sur 40 km sur 8 de large, où là, vraiment, c'est une prison à ciel ouvert, où les gens se sont fait massacrer sans sortie possible. Au Liban, il y a encore des espaces où on peut aller se protéger, et c'est pour ça qu'on a autant de réfugiés, même si, je le redis, il n'y a aucun lieu sûr aujourd'hui au Liban, puisqu'on voit que ça bombarde de Baalbek à la Beka, au sud de Beyrouth et ailleurs. L'autre élément qui participe de cette volonté, je dirais, d'éradication massive, c'est aussi le nombre d'atteintes de centres de santé, d'hôpitaux. C'est au moins 4 hôpitaux qui ont dû fermer. C'est une cinquantaine de centres de santé qui ont été attaqués. C'est 50 soignants et secouristes qui ont été tués délibérément pour certains dans l'exercice de leurs fonctions. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite dans cette pratique, dans ces pratiques qui, comme je disais tout à l'heure, relèvent lorsqu'on déplace massivement 1 million de personnes, c'est quasiment c'est un crime de guerre pour des personnes qui, du jour au lendemain, doivent tout quitter. Et des personnes qui se retrouvent pour la plupart dans la rue ou dans leur voiture quand ils en ont. Les autorités ont mis en place des dispositifs d'accueil, ils ont réquisitionné des gymnases, des différents lieux, comme il y a quelques mois. Mais ces dispositifs hébergent environ 120 à 150 000 personnes. Donc c'est 1/10 des besoins. Les autres, pour certains, ont quelques relais de solidarité dans des familles. Mais les autres sont dehors ou dans leur voiture. Les prix des locations, des apparts à Beyrouth, par exemple, ont extrêmement augmenté. Donc les personnes qui sont dans une situation précaire financièrement, et c'est la plupart des gens, n'ont aucune alternative. Donc ça participe. Ces déplacements massifs de population, les attaques sur les centres de santé, le fait de tuer des civils de manière et des soignants de manière délibérée, ça participe déjà, on est déjà dans des pratiques de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité potentiels. Et cela, voilà, je dirais, pas dans un mutisme de la communauté internationale, parce qu'on a des gesticulations communicationnelles, y compris du président français, comme on l'a vu sur Gaza, mais pour l'instant, sans vraiment de contraintes sur les autorités israéliennes pour les empêcher de faire ce qu'ils font.
Akessa.
Je vais répondre à ce que vous avez dit, mais juste avant ça, pour aider peut-être les gens qui ne connaissent pas bien le Liban à situer, la région du sud Liban dont on parle, ce n'est pas juste la frontière et des terres arables. On en parle dans le chat, effectivement, il y a aussi une volonté de s'en prendre aux terres arables, aux ressources en eau et aux possibilités de reconstruire l'avenir au sud Liban. Mais c'est aussi la ville de Tyr, qui est de mémoire la 3e plus grande ville du Liban, qui est la capitale de la Phénicie. Historiquement, il y a énormément de sites archéologiques, qui est bombardé très régulièrement et qu'ils ont fait vider quasi complètement. C'est dans ce qui va probablement devenir la zone tampon, la ville de Nabatieh, qui est soit une des villes du parti Hamal et du Hezbollah, mais qui est aussi une des villes particulièrement peuplées du Liban, qui est un centre commercial très important et qui a été là encore complètement vidé par Israël. Il y a des secouristes, vous en parliez tout à l'heure, mais qui ont été tués il y a une semaine, ça a été filmé par France 2, alors ça a fait un petit peu de remous, en tout cas ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, et qui ont été visés par un drone de façon tout à fait volontaire par Israël. Et donc pour situer, on ne parle pas du tout que de petites zones agricoles, mais vraiment de villes particulièrement peuplées au Liban. Et je voulais compléter ce que vous disiez, un des espaces où une partie des réfugiés sont accueillis, c'est les écoles. En tout cas, les écoles publiques libanaises qui ont été ouvertes pour accueillir des réfugiés, écoles publiques qui, du coup, ne peuvent plus accueillir d'élèves, par ailleurs, ce qui pose toute une question sur la déstabilisation du système scolaire libanais, de l'avenir de la jeunesse libanaise aussi. Une partie des cours sont passés à distance, mais on est dans un pays où il y a peu d'électricité, en tout cas peu d'électricité publique, où l'électricité privée coûte très cher, où par ailleurs ça pollue et ça pose des questions de survie du pays dans le futur. Et de fait, ça pose aussi la question de... Les gens ne vont pas pouvoir éternellement rester dans des gymnases ou dans des écoles. On a vu des scènes terribles où les familles réfugiées étaient complètement sous l'eau. Parce que quand il pleut à Beyrouth, il ne pleut pas un peu. Il pleut énormément à Beyrouth, c'est terrible. Soit il fait très beau, soit il pleut des cordes. Il n'y a pas d'entre-deux. Et on a vu des familles entières qui étaient complètement sous l'eau et qui ne savaient plus quoi faire pour écoper l'eau. On a vu les mêmes images à Gaza, parce que je présume que le climat est à peu près le même. Mais ça pose des vraies questions sur la durabilité de la situation. Et ça m'inquiète d'autant plus que les dernières déclarations du gouvernement israélien tentent quand même à dire qu'on est très 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 loin d'un potentiel, ne serait-ce que cessez-le-feu, ou même d'un début de commencement de négociations diplomatiques pour essayer de mettre fin à ce drame humanitaire. Et on a quand même des familles et des gens qui... dont la vie ne va pas pouvoir continuer dans les conditions dans lesquelles elle est aujourd'hui. Un État qui ne peut rien faire. Et c'est même pas la faute de l'État libanais, quelque part. De fait, le fonctionnement de l'État libanais, c'est la décharge de l'action publique, qu'il a toujours transmis à d'autres, à des associations humanitaires, à des organisations internationales, au système confessionnel. Et l'État est là juste complètement dépassé. Je crois que les ONG le sont aussi, du fait de la taille du territoire, qui fait qu'on a beaucoup trop de monde dans un même endroit. Et moi, je suis très inquiète sur si ça dure encore plusieurs mois, comment on va faire.
Alors, je voudrais juste faire un petit rappel chronologique. En fait, il y a quelques semaines, il y avait un cessez-le-feu qui était, dites-moi si je me trompe, violé régulièrement par les autorités israéliennes. Et puis, début mars, il y a des tirs de roquettes sur Haïfa, donc en Israël, par le Hezbollah. C'est à partir de ce moment-là qu'Israël a décidé... Donc ça, c'est évidemment suite au déclenchement de la guerre américaine en Iran. Donc le Hezbollah tire sur Israël et là, la réponse, c'est ce que vous êtes en train de décrire. Je voudrais juste dire que parmi les victimes, il y a aussi trois casques bleus maintenant. Ouais. Donc je dis ça parce que ça donne une connotation politique internationale qui peut-être jouer ou non, on le verra dans les prochains jours. Est-ce que cette chronologie rapide est exact ou il manque des éléments importants?
Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, parce que j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat sur les bombardements israéliens. Ce qu'il faut savoir, c'est que Israël a toujours bombardé le Liban, même dans les périodes au cours desquelles il y a pu y avoir des cessez-le-feu. Et je fais référence même avant le cessez-le-feu de novembre 2024. C'est-à-dire que Israël, depuis son retrait du Liban, retrait en 2000, a toujours, alors après il y a eu la guerre de 2006, mais de toute façon, Israël n'a jamais cessé de bombarder le Liban. Et quand on va au Liban, quand on vit au Liban, on est habitué à entendre régulièrement des survols de l'armée israélienne de ce pays. Ça, c'est le premier fait, j'allais dire, avéré. Il y a eu la guerre de septembre 2024, donc qui était la riposte israélienne au soutien du Hezbollah au Hamas après les attaques du 7 octobre, où là, il y a eu une guerre très violente avec un cessez-le-feu qui a été signé donc en novembre 2024. Et je vais ajouter un mot, sous parrainage ou garantie, il y avait deux garants qui étaient la France et les États-Unis de cet accord de cessez-le-feu. Accord de cessez-le-feu qui prévoyait le désarmement du Hezbollah. Parce que je pense que c'est important de rappeler ce point. C'est qu'au lendemain de la guerre civile au Liban, il y a eu ce qu'on appelait les accords de Taif, qui ont été les accords qui ont mis fin à cette guerre civile. Le seul parti milice qui a eu le droit de garder ses armes, c'est le Hezbollah, au nom de la résistance face à Israël, puisque le bastion du Hezbollah, c'est le Sud-Liban, et la Beka, mais le Sud-Liban, au nom de la résistance face à Israël. Donc ça a posé problème.
D'où les bombardements sur le site sud-Liban.
Voilà.
C'est ça.
Absolument. Voilà. Donc, le Hezbollah a gardé ses armes. En 2006, lorsqu'il y a eu la guerre menée par Israël et que le Hezbollah s'est défendu, a réussi à faire partir Israël au bout de ce qu'on appelait la guerre des 33 jours en 2006. Là, le Hezbollah a eu quand même un soutien de la population libanaise, chrétien compris, parce que le Hezbollah avait réussi à faire partir Israël du pays. Le fait que le Hezbollah rentre en guerre en soutien au Hamas après le 7 octobre, ça n'a pas été bien vu par l'ensemble de la population libanaise, puisqu'il y a eu cette riposte israélienne très forte. Et là, pour Israël, c'était absolument justifié, puisqu'il y avait le traumatisme du 7 octobre. On est toujours dans cette logique-là. Le cessez-le-feu arrive en novembre 2024. Et là, la condition, c'est que le gouvernement libanais, entre-temps, il y a un nouveau gouvernement libanais qui a l'appui de la communauté internationale. Eh bien, ce gouvernement doit désarmer le Hezbollah pour empêcher qu'une autre fois, le Hezbollah puisse utiliser ses armes contre Israël et provoquant cette riposte israélienne. Le gouvernement libanais, de mon point de vue, a fait beaucoup. Il a commencé à désarmer le Hezbollah. Il y a eu des résultats. Évidemment, Israël trouvait que ça n'allait pas assez loin, assez vite, parce que, évidemment, que le Hezbollah a gardé quand même certaines de ses armes. Donc, Israël a toujours eu dans l'idée, après la signature de ce cessez-le-feu, de toute façon, d'être légitime à continuer à bombarder le Hezbollah, parce que le Hezbollah n'avait pas rendu toutes ses armes. Alors que le Hezbollah, pendant toute cette période, n'a lancé aucune roquette sur Israël. Aucune. Mais tous les jours, Israël bombardait. Moi, j'étais encore au Liban en octobre dernier, et les drones survolaient Beyrouth, le centre de Beyrouth. Et donc, avec cette idée toujours de dire aux Libanais, on est là, et de toute façon...
Qui n'est pas la porte à côté par rapport
au sud,
par rapport à Israël.
Pays,
oui, même
voilà.
Si c'est un petit pays, enfin, je veux dire, on ne peut pas se perdre. Voilà, c'est pas...
Non, c'était délibéré, c'est une façon de dire aux Libanais, on est là, on vous surveille, et on sait que... Enfin, on a les moyens d'intervenir quand on veut. Donc, il y avait cette situation où Israël bombardait et donc rompait le cessez-le-feu tous les jours. Aucune réaction des Américains et des Français garant de ce cessez-le-feu, ce qui pose quand même problème. Et donc, Israël, de toute façon, estimait qu'il était légitime à continuer à bombarder. Et donc, quand le Hezbollah a envoyé quelques roquettes sur Israël après l'entrée en guerre d'Israël et des Américains contre l'Iran, eh bien là, Israël a vu l'occasion rêver, si je puis dire, eh bien, de reprendre les bombardements. Mais alors là, massif, pour bien dire au Hezbollah, de toute façon, c'est son discours habituel, il est hors de question que vous gardiez la moindre arme. Mais là encore, je fais ce parallèle avec Gaza, moi qui me terrifie, puisqu'on a bien vu qu'au bout de 2 ans et demi, quand même, de bombardements massifs d'Israël, de la bande de Gaza, tout petit territoire, comme vient de le rappeler Jean-François, le Hamas est toujours là. Et donc, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils croient vraiment qu'ils vont pouvoir éliminer, comme ils le disent, le Hezbollah au Liban? C'est absolument impossible. Donc, même la justification qui est donnée à cette opération massive de destruction massive du Liban, de sa population, est quelque chose d'absolument ahurissant. Parce que c'est absolument pas possible d'obtenir cet objectif de guerre tel que défini par ce gouvernement d'extrême droite israélien.
Le chat dans la personne de Témorophile nous dit « De ce que je sais, le désarmement est compliqué parce que c'est une armée parallèle, puissante, voire, donc le Hezbollah, voire au même niveau que l'armée numériquement. Il y a même des gens qui, j'ai pu lire, qui disaient que l'armée libanaise, en fait, était plus faible que le Hezbollah pour désarmer le Hezbollah.
En fait, l'armée libanaise a réussi quand même à désarmer une partie du Hezbollah. Il ne faut absolument pas minimiser quand même ce qu'a fait l'armée libanaise. Simplement, l'armée libanaise et le gouvernement libanais est obligé de faire ça progressivement et avec beaucoup de prudence, puisque... il y a le risque quand même de raviver des tensions communautaires. Et donc, le gouvernement libanais, dans ce désarmement, fait attention. Parce que comme Israël continue à bombarder toute la journée, le Hezbollah avait beau jeu d'aller voir le gouvernement en disant « Ok, nous, on veut bien être désarmés, mais comment pouvez-vous accepter notre désarmement alors qu'Israël nous bombarde tous les jours ?» Faites appliquer de façon stricte le cessez-le-feu et après on peut discuter. Alors que le Hezbollah ait envie de garder un peu des armes, c'est tout à fait aussi possible. Mais il y a cette composition d'abord de ce non-respect de l'accord qui donnait des arguments. Et moi, un ministre du gouvernement libanais m'a dit un jour, mais comment voulez-vous qu'on puisse justifier et qu'on puisse tenir cette position vis-à-vis du Hezbollah si tous les jours Israël rompt le cessez-le-feu. Donc il y a une exigence d'Israël de désarmer et en même temps, en faisant tout pour que le gouvernement ne puisse pas aller jusqu'au bout de ce processus, et je finis là-dessus, parce que l'objectif, et ça, cette stratégie d'Israël, on la retrouve dans tous les domaines, c'est je ne veux pas avoir d'interlocuteur valable avec qui négocier, donc je ne permets jamais de réunir les conditions permettant de mener une négociation, donc je laisse le Hezbollah, finalement, continuer à agir ce qu'il faut pour justifier les bombardements et pour dire, vous voyez bien, nous, on aimerait bien négocier, mais on ne peut pas négocier avec ces fous furieux. C'est ça la logique au fond.
J'allais ajouter à ça, pour répondre aussi à des questions qui étaient posées dans le chat, le Hezbollah, ce n'est pas qu'une milice. Je sais que c'est dur, venu d'ici, de se représenter le Hezbollah comme autre chose que des tortionnaires sanguinaires, quelque part, qui en plus ont l'outrecuidance de défendre une idéologie légèrement islamiste, donc ça n'aide pas. Mais le Hezbollah, c'est aussi une organisation sociale, au sens vraiment d'organisation sociale. C'est un parti politique qui a des représentants démocratiquement élus. Alors, démocratiquement, dans une vision qui n'est pas forcément démocratique à la française, je l'entends, mais il n'empêche que les élections se sont tenues, elles se sont bien tenues. Alors, effectivement, les partis sont devant les bureaux de vote le jour des élections, ce qui, pour des Français, est toujours un peu étonnant, mais il n'empêche que les élections se sont démocratiquement tenues, qu'elles ont été soutenues et protégées par la communauté internationale. C'est donc aussi un parti politique qui a des représentants politiques élus. C'est aussi une organisation sociale au sens de, ils ont des écoles, ils ont des dispensaires, ils ont des centres de santé, ils vont avoir des mouvements de jeunesse, ils vont avoir tout un mouvement social et politique qui s'intègre dans la société libanaise. Au moment de la crise économique, moi j'étais au Liban en 2021-2022, et j'ai commencé par mon terrain à Nabatieh, et donc on était en pleine crise de l'essence, il n'y avait plus d'essence. On n'arrivait plus à se faire livrer, les subsides de l'État étaient tombés, bref, ça coûtait, c'était hors de prix. Pour obtenir de l'essence, les gens n'avaient qu'une solution, aller voir le Hezbollah. Parce que c'était les seuls, dans le sud en tout cas, qui avaient les moyens d'acheminer de l'essence, de distribuer de l'essence à des prix qui étaient acceptables pour les familles, et qui optent, et en fait, les, par exemple, les écoles de la mission laïque et les écoles françaises subventionnaient l'achat d'essence du Hezbollah pour permettre aux gens d'aller travailler. Donc, c'est pas du tout juste une milice armée jusqu'aux dents, quelque part. Et j'ajouterais à ça, par ailleurs, je rejoins totalement Agnès Levallois là-dessus, c'est un prétexte. Le but du Hezbollah, c'est pas, le but d'Israël, c'est absolument pas de faire tomber le Hezbollah, ils y arriveront pas. À moins de tuer l'entièreté des Libanais, je pense qu'ils ils tueront jusqu'au dernier militant, mais ça peut durer des années. Et à vrai dire, ils ne font que nourrir la haine en faisant ce qu'ils font. Un prétexte pour occuper le Sud. Ouais. Pour occuper le Sud. Et j'irais presque jusqu'à dire, mais je ne suis pas spécialiste de la question des ressources naturelles, alors je ne veux pas trop m'avancer. J'ai conscience de l'ampleur de ce que je ne connais pas encore sur ce pays. Mais j'aurais quand même tendance à dire que le but, c'est d'obtenir des terres arables et de l'eau. Et qu'ils ont toujours dit qu'ils voulaient créer un grand Israël aussi pour ça. Et qu'objectivement, le Sud du Liban, c'est des terres arables. Le fleuve Litani, c'est des ressources en eau.
Sauf qu'ils détruisent les terres aujourd'hui en balançant du glyphosate et compagnie. Et donc les terres vont être inexploitables comme à Gaza pendant maintenant 5 à 10 ans.
Jean-François.
Oui, non, je partage l'analyse qui vient d'être faite par mes deux voisines. Je suis cerné, mais favorablement, je dirais. C'est plutôt sympathique. Je partage l'analyse qui a été faite sur le fait que le Hezbollah est plus qu'une milice. Hein, et la dimension sociale est quelque chose, évidemment, qui me touche particulièrement au regard de mon activité. Créer les conditions d'une forme de confiance, de légitimation, dans un contexte où Agnès aussi l'a rappelé. Et je pense qu'on est aussi dans cette stratégie qu'on a pu voir à Gaza, d'entretenir certains acteurs plus ou moins extrémistes en face pour pouvoir justifier, de leur taper dessus quand il faut, quand ça arrange. Enfin, ils font, les Israéliens au Liban, ce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire comme ils l'ont fait à Gaza. Ils ont annoncé qu'ils allaient envahir le sud du Liban. Ils sont en train de le faire de faire dégager toute la population pour obtenir cet objectif. À la nuance près de Gaza, c'est que il me semble qu'à Gaza, aujourd'hui, avec la perspective de la Riviera, on reviendra dessus de Trump, sans autodétermination palestinienne, sans remise en question de la colonisation qui s'accélère en Cisjordanie, à Gaza, je pense qu'on est sur une fin de cycle où c'est une colonisation totale israélo-américaine, avec à moyen terme un sort assez restreint pour les Palestiniens. Soit vous partiez, soit vous mourrez, soit vous allez bosser dans les hôtels de Trump demain, au même titre que les travailleurs précaires dans les pays arabes de la région. Donc à Gaza, ils pouvaient tuer tout le monde, hein, et c'est pas fini. Hein, on est dans une période de désarmement, en théorie, du Hamas, de ce qu'il reste de la bande de Gaza aux mains de ce groupe. C'était d'ailleurs moins de 40-45% de territoire. Mais
ça bombarde régulièrement. Depuis les fameux accords de paix d'octobre 2025, il y a au moins 600 morts par bombardement. Et je ne comptabilise pas les milliers de malades et de blessés qui sont en train de crever à petit feu. C'est 20 000 personnes qu'on estime devoir évacuer parce que le dispositif de santé n'est plus efficace. À Gaza, ils ont tué énormément de monde. Ils pourraient tuer tout le monde ou faire partir tout le monde parce que l'objectif, c'est d'occuper tout Gaza à terme. Au Liban, on voit bien qu'ils ont fixé pour l'instant notre objectif, qui est l'occupation du Sud. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en atténuant les capacités militaires du Hezbollah, mais aussi les capacités... en essayant de les délégitimer d'un point de vue social, politique, en montrant qu'au fond, ils sont peut-être faibles et que la population aurait tort de s'associer ou de les soutenir. Voilà, moi, ce que je voulais dire simplement, peut-être sur la question sociale, c'est que pour les humanitaires, tu l'as dit, la situation, elle est monstrueuse. Enfin, c'est monstrueux les besoins qu'il y a. Du jour au lendemain, 1 million de personnes, en plus d'une précarité massive, des autorités qui font ce qu'elles peuvent, qui sont dépassées. Et je suis d'accord avec toi, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que les mortalités vont être énormes. C'est pas une population qui a l'habitude d'être déplacée massivement comme ça du jour au lendemain. Et donc une résilience qui est encore assez faible et une vulnérabilité notamment à la précarité. Au Liban, il y a un haut niveau de réponse médicale, même si le pays est économiquement fragile, qu'il y a une forte place de la privatisation de l'accès aux soins et qui fait qu'il faut payer souvent et que c'est pas facile et compagnie. Mais quand même, il y a un haut niveau de réponse médicale pour des maladies type hypertension, diabète. C'est des traitements de première, seconde ligne, troisième ligne. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, j'ai travaillé au Liban, j'ai accompagné des programmes à l'époque à Médecins Sans Frontières, avec Médecins du Monde, où je me suis rendu aussi pour voir nos projets il y a quelques années. Et en fait, vous ne pouvez pas faire de la médecine de base en tant qu'humanitaire là-bas. Vous devez avoir un haut niveau de réponse médicale pour être... justement, pour être en capacité de répondre aux besoins de cette population. Et donc, ce n'est pas simplement du doliprane et un type d'antibiotique que vous devez avoir dans vos centres de santé qu'on essaie de montrer, et je reviendrai sur le dispositif qu'on a aujourd'hui. Il faut apporter des traitements de haut niveau de qualité, diversifiés, pour répondre à toutes les pathologies chroniques. Et en fait, c'est ça l'enjeu qu'il y a aujourd'hui. C'est non seulement les 1,5 million de personnes qui sont dehors, il faut les loger, les nourrir, il faut les soigner, il faut assurer la continuité des soins de ces populations, notamment pour les maladies chroniques que j'évoquais. Il faut assurer la prise en charge des urgences classiques dans un dispositif qui est saturé aujourd'hui et qui, en plus, commence à être détruit, comme j'évoquais tout à l'heure, de manière délibérée. Donc, tout est fait pour construire une crise humanitaire. La crise humanitaire, ça ne tombe pas comme ça du ciel, sauf qu'il y a un tremblement de terre, une catastrophe naturelle. Là, il y a une volonté délibérée de construire une crise humanitaire en accentuant les déterminants de vulnérabilité par la destruction des infrastructures sanitaires, par le fait de tuer des soignants, par le fait d'empêcher les humanitaires, parce que c'est hyper dangereux, d'aller dans le sud ou même dans certains coins de la Béka, et donc de limiter la capacité de réponse, donc de mettre une pression maximale aussi sur les civils. C'est en passant par le fait de terroriser les populations qu'il y a aussi une intention stratégique militaire d'affaiblir le Hezbollah et le Liban dans son entièreté. Et en ça, ce sont des techniques militaires qui sont tout à fait critiquables, en tout cas qui ne répondent pas aux exigences du droit international humanitaire.
Moi, je voudrais ajouter un point, et je suis complètement d'accord évidemment avec tout ce qui a été dit. Une autre question qui se pose aujourd'hui, c'est que dans beaucoup d'endroits du Liban, dans beaucoup de régions, les Libanais ne veulent plus aujourd'hui accueillir ou permettre à des déplacés ou des réfugiés de venir s'installer, de peur de prendre eux aussi des bombardements israéliens. Autant en septembre 2024, lorsqu'il y a eu les bombardements, il y avait eu une solidarité extraordinaire qui s'est déployée sur tout le territoire libanais pour permettre à ceux qui avaient été obligés de fuir le sud ou la Béka ou quelques quartiers de Beyrouth sud de pouvoir trouver refuge quelque part. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages récemment, par exemple d'appartements vides à Beyrouth que quelqu'un veut louer, parce que c'est aussi l'occasion de gagner un peu d'argent pour certains, et les autres propriétaires de l'immeuble qui interdisent à celui ou à celle qui a un appartement de le louer de peur qu'il y ait un responsable ou un militant de Hezbollah qui fasse partie de ces personnes qui loueraient l'appartement et donc ne voulant pas prendre le risque d'un bombardement. Et donc, on est aussi dans une situation aujourd'hui extrêmement grave du point de vue de la société libanaise, où, et là, cet exemple-là, je peux le multiplier dans des villages au nord de Beyrouth, où pareil, il y a des maisons qui sont vides parce qu'il y a beaucoup de Libanais à l'extérieur. Moi, je connais des Libanais de l'extérieur qui ont proposé d'ouvrir leur maison, mais eux, ils sont à l'extérieur, et leurs amis dans le village leur ont interdit d'ouvrir la maison pour les raisons que j'ai évoquées. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Israël est en train aussi, à travers ses bombardements massifs, en faisant partir les populations dans des nombres incroyables quand on rapporte ça à la population libanaise, sont en train de créer ou de semer les germes potentiellement d'une reprise de tensions communautaires, puisque du coup, la réaction d'une grande partie des Libanais, c'est de dire « mais le Hezbollah nous a entraînés à nouveau dans quelque chose dont on ne veut pas ». Le Hezbollah, c'est quoi? C'est la communauté chiite. Et, et donc là, on est en train, Israël est en train d'essayer de raviver les germes d'une potentielle guerre civile à venir. C'est ça aussi qui est en jeu dans la stratégie d'Israël, avec l'idée que plus il y aura le chaos dans ce pays, mieux ce sera pour les Israéliens, qui veulent finalement autour d'eux des zones complètement vides de population. Donc on le voit avec le sud Liban, on voit ce que fait Israël dans le sud de la Syrie. Et au-delà de ça, s'il y a le chaos et il y a une guerre civile, eh bien l'idée c'est que finalement on sera complètement tranquille. Ce qui est évidemment une stratégie qui à mon avis n'a aucun sens. Mais je crois qu'il y a vraiment cette idée aussi au-delà de tout ce qu'on a décrit.
Ça renvoie au grand Israël, qui c'est un sens mystique. Hein.
Mais complètement.
C'est pas que politique.
Hein. Oui, oui, complètement. On est exactement là-dedans.
À qui ça?
J'en veux pour preuve les ordres d'évacuation des quartiers sud de Beyrouth, où ils ont imposé à la population chiite qui devait quitter les quartiers sud de Beyrouth de passer par certaines routes qui étaient spécifiquement des routes qui permettraient de les faire passer devant les autres communautés, oui, notamment devant les populations chrétiennes. Ça avait clairement un seul but, renforcer la honte, renforcer la terreur, renforcer la peur.
Absolument.
Et je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de cette résilience de la population libanaise. Moi, il y a un fait que je rappelle tout le temps, qui est que les familles qui ont aujourd'hui 40-50 ans, dont les enfants sont scolarisés, qui sont celles qui sont en train de fuir, c'est des familles qui ont vécu la guerre civile, qui ont vécu l'occupation jusqu'en 2000. Et on est vraiment... C'est des gens qui ont une connaissance et une expérience du conflit guerrier qui est très forte. Ils ont l'habitude des bombardements. J'ai des amis au sud qui me disent « Ah mais moi, ça m'empêche plus de dormir parce que ça fait 3 ans que je vis sous les bombes toutes les nuits. » Mais qui, par contre, n'ont pas du tout l'habitude des déplacements et qui vivent particulièrement mal le fait d'être déplacés. Mes amis à Nabatieh, par exemple, pendant les bombardements à Nabatieh, tenaient. Parce qu'elles avaient l'habitude d'entendre le bruit des bombes, d'entendre le bruit des drones, ça faisait partie du quotidien. Depuis qu'elles sont déplacées et qu'elles vivent dans la peur, continuent de ne pas rentrer chez eux. Parce qu'il faut quand même se représenter ce que ça implique pour quelqu'un, de savoir que potentiellement il ne retournera jamais chez lui. Et on est vraiment là-dedans. Nabatieh, par exemple, il y a des vrais risques que... Alors soit ce ne sera pas dans la zone tampon, mais ce sera la première ville juste avant la zone tampon, donc de toute façon ce sera une zone de combat. Soit ce sera dans la zone tampon et Israël empêchera d'y aller. C'est des familles entières qui retrouveront peut-être jamais leurs biens, peut-être jamais leur maison. Ce qui veut aussi dire des ressources économiques. Parce que posséder une maison, posséder des terres, c'est une ressource économique dans un pays qui, rappelons-le, est depuis 2019 dans un effondrement économique quasi complet. Et donc pour les familles de classe moyenne, sans même parler des populations extrêmement paupérisées qui ont dû fuir dans des conditions bien pires, mais pour les familles de classe moyenne un peu aisées qui étaient propriétaires, c'est le risque foncièrement de tout perdre. Mes amies, en l'occurrence, elles travaillent dans des lycées français, elles ont encore un salaire, les cours ont repris à distance, donc elles n'ont pas la crainte quotidienne de ne pas pouvoir payer un loyer, de ne pas pouvoir rester hébergées. Mais il y a cet enjeu tout bête, comment on fait si ça dure 4, 5, enfin, plusieurs mois? Le fait est qu'elles vivent avec cette crainte quotidienne de tout perdre, et je rejoins totalement ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment cette volonté de renforcer les tensions confessionnelles. Et en fait, je crois qu'ils espèrent quelque part que les tensions confessionnelles vont faire le travail à leur place. Enfin, moi, j'en arrive à penser ça. C'est, ils se disent, bon, il y a bien un moment où la société va finir par craquer. Ça fait 5 ans que c'est dur, il y a bien un moment où ça va craquer. Et en même temps, je me demande si, au contraire, précisément le fait que la génération qui est maintenant au règne dans la société, pas forcément pour le pouvoir politique, soit précisément celle qui a été enfant au moment de la guerre, éloigne pas aussi ce risque. Parce que, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu dans les écoles, alors c'est évidemment, enfin, c'est très spécifique quand même, les écoles françaises au Liban. Je ne voudrais pas faire croire que toute l'éducation libanaise, c'est ça. Mais il n'empêche que je l'ai quand même entendu dans des enseignants d'écoles chrétiennes qui disaient « Oui, mais en fait, nous, on a vécu la guerre, on sait ce que c'est, on ne veut surtout pas que ça revienne. » Donc, je me demande, ils peuvent fractionner la société. De là à réussir à provoquer une guerre, je ne l'affirmerai pas.
Oui, c'est très juste ce qui a été dit sur la capacité de résilience de populations qui... peuvent avoir l'expérience d'un temps de conflit, de bombardement, tout en étant chez soi et en ayant des attitudes adaptées pour se protéger des risques de bombardement, mais en étant chez soi, en se mettant aux abris. C'est différent d'être déplacé, de se retrouver dans une vulnérabilité extrême à la rue. Et la rue, ça tue du fait du manque d'hygiène, du manque de capacité de nourriture, de repos aujourd'hui, d'exposition aussi à de la violence physique, hein, des risques de viol et autres, notamment pour les femmes, on le sait, dans n'importe quelle zone de guerre, hein, fragilise ces personnes et les enfants aussi. Donc il y a tout un tas de déterminants qui sont accentués et qui font qu'une population, et je pense aussi aujourd'hui aux Iraniens, hein, près de plusieurs millions de personnes qui fuient Téhéran, que je connais bien, qui se retrouvent pour certains dans les réseaux de solidarité ou autre, mais c'est des populations qui ont un haut niveau de vie habituellement, qui du jour au lendemain se retrouvent dehors, sans rien. Enfin, ce n'est pas des gens qui vont vivre longtemps. C'est ça que je dirais au Liban. C'est cette situation qu'on évoque. Même si, et c'est à partir de là que les organisations humanitaires s'organisent, je voulais dire donc deux choses. D'abord, autour de Médecins du Monde, pas pour faire de l'autopromo, mais un peu quand même, on intervient là-bas depuis de nombreuses années.
Depuis 30 ans.
D'autres organisations qui travaillent aussi. Les montées en charge suite aux derniers événements et aux besoins qui sont en train d'exploser, comme on l'a évoqué. Et aujourd'hui, on essaie d'appuyer les autorités sanitaires par l'appui de centres de santé dans la Beka, dans le sud de Beyrouth aussi, où on fait de la santé primaire, du soutien psychologique, parce qu'il y a évidemment dans ce contexte-là des pressions qui font qu'il y a des troubles, des stress traumatiques, des dépressions, des angoisses majeures qui vous pourrissent la vie, hein. En plus que vous êtes dehors, vous n'avez plus de job, vous cherchez à bouffer, mais vous avez une pression psychologique qui vous affaiblit, la capacité de résilience, elle est très atténuée dans ces conditions-là. Et donc on appuie les centres de santé, et puis aussi on appuie avec des dispositifs mobiles ces centres qui ont été montés par les autorités dont on parlait tout à l'heure,
oui.
Environ 300-400 qui permettent de protéger 120 000, 150 000 personnes, voilà, et où il y a une précarité très grande, gymnase, école ou autre, quand vous êtes 150 pour normalement des lieux qui sont prévus pour 100 personnes, il n'y a pas suffisamment de toilettes, de douches, voilà, et donc les infections se développent, et il faut assurer aussi la continuité des soins des personnes, comme j'évoquais tout à l'heure, qui sont pour certaines sous maladies chroniques avec des traitements importants. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a d'un point de vue humanitaire, une mobilisation, ça c'est clair, la communauté internationale, la diaspora qui est puissante, qui a de l'argent aussi, et des gouvernements, dont celui de la France, qui ont lâché des enveloppes financières conséquentes pour de l'action humanitaire. Par exemple, Macron a annoncé 20 millions d'euros pour des acteurs humanitaires, pour justement essayer de soutenir ce pays. Mais
sans mauvais esprit, est-ce que c'est pas... se racheter de bonne conscience
mais
petit
c'est fou,
prix.
Tu es fort parce que tu anticipes ma pensée, c'est vraiment
cette capacité. C'est à force de te recevoir que je saisis
ton cheminement. Dans ce genre de contexte, on l'a rappelé, il y a des accords qui ont été signés avec parrainage de la France, entre autres. Il y en a un engagement historique fort. Il y a eu des mots forts qui ont été mis en avant par notre président et notre gouvernement. Pour dire qu'on ne devait pas voir à nouveau le pays partir en guerre. Et aujourd'hui, notre président se cantonne, je dirais simplement, à de l'action humanitaire concrète. Et le reste, c'est des gesticulations communicationnelles. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, parce que
bien sûr.
Financements sont utiles aussi pour nous, pour soutenir la population, mais ce n'est pas suffisant. Moi, j'attends de mon président qu'il fasse de la politique, qu'il ne fasse pas de l'action humanitaire. Ça, c'est mon job. C'est le job de mes équipes. C'est le job des associations locales qui sont très développées au Liban aussi, qu'on aide pour qu'elles soient autonomes dans la capacité de soutenir leurs concitoyens. Mais on attend des acteurs politiques, comme à Gaza et ailleurs, qu'ils prennent des mesures tangibles pour que leur discours se transforme en acte. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est pas l'action humanitaire qui arrête des massacres. C'est pas l'action humanitaire qui empêche la déstabilisation
d'un pays pour qu'il soit à feu et à sang. C'est des actes politiques tangibles et aujourd'hui, il n'y a rien à ce niveau-là. Même des acteurs de la FINUL sont bombardés, sont tués. Alors, ce n'était pas des Français, mais il y a des Français blessés potentiellement ou qui ont été ciblés. Des soignants sont tués. Enfin, on a tous les critères aujourd'hui pour dire qu'on est dans une configuration de crime de guerre et crime contre l'humanité. Il y a des conventions qui existent, que la France a signées, notamment les accords de 48 pour limiter les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les prévenir et les punir. Et le crime de génocide. On n'en est pas là encore au Liban, même si on y est, de mon point de vue, à Gaza. Et pour autant, personne, en tout cas tous les signataires des conventions, n'a rien fait. Donc on voit bien la démission politique aussi, qui, de mon point de vue, confine à une forme de démission, mais complice. L'Europe pourrait prendre des mesures pour infléchir la politique d'extrême droite israélienne aujourd'hui, par remise en question des accords d'association, par le fait d'empêcher, nous, la France, de laisser survoler notre territoire par Netanyahou régulièrement quand il va à New York, de soutenir la Cour pénale internationale et la Cour internationale de la justice, qui notamment essaient de faire leur boulot en ayant mis notamment la CPI, un mandat d'arrêt sur la tête de Netanyahou, deux leaders aussi du Hamas pour la plupart qui ont été tués. Voilà, il n'y a rien de concret à part des enveloppes financières humanitaires, et je ne dis pas que c'est mal, mais ce n'est pas ça qu'on attend des acteurs politiques pour faire inverser le réel.
Je profite que tu aies le micro pour te poser une question annexe. Où en êtes-vous, Médecins du Monde et les autres ONG, avec Israël, notamment en ce qui concerne la Palestine, la bande de Gaza ?
On est dans une situation absolument déplorable et voire terrifiante, moins pour nous, pour les populations civiles en Cisjordanie, à Gaza. On est censé quitter Gaza et la Cisjordanie. C'est près d'une soixantaine d'organisations, dont Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Enfin, on n'est quand même pas c'est pas des petites assos, quoi. Hein, on a fait nos preuves à l'échelle mondiale sur des conflits.
Et au nom
les trois arguments qui sont mis en avant pour les organisations, c'est: un, toutes celles qui ne donnent pas leur liste de staff local, nos employés locaux. Et évidemment, nous, on a refusé de donner la liste de nos employés locaux de Gaza. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de 500 humanitaires qui ont été tués à Gaza. Il y a des milliers de soignants qui sont tués, emprisonnés, torturés encore aujourd'hui. Voilà, on n'a pas envie, dans ces conditions, de donner en plus la liste de nos staffs à une force occupante qui n'a pas la légitimité de l'avoir. Donc c'est le premier point. Les autres arguments, c'est de dire toutes les organisations qui critiquent la politique israélienne, ben ça dégage aussi. Voilà. Donc en fait, toutes celles qui font du plaidoyer, comme nous, c'est-à-dire qui ne sommes ni pour l'un ni pour l'autre, mais qui sommes pour la justice internationale et le droit international humanitaire, tous ceux qui dénoncent le non-respect du DIH, ça dégage. Et puis le troisième niveau, c'est d'accuser certaines organisations d'être noyautées par des forces du Hamas. Voilà, comme ça a été le cas pour l'UNRWA. Et aujourd'hui, eh bien, on a une épée de Damoclès sur la tête, puisque la Cour suprême a refusé cette demande. On a fait appel, et en ce moment même, c'est en train de se dérouler. Eh bien, il y aura un dernier avis et qui va pas nous être favorable, je pense. Donc, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que...
Excuse-moi, Jean-François, ouais. Le recours, il est auprès de...
Je crois que c'est la Cour suprême israélienne.
Israélienne.
Ouais, israélienne. Et simplement pour terminer sur ce point-là, donc nous, on va dégager probablement. En tout cas, en tant que tel, on va réfléchir sur les possibilités de continuer à travailler sur d'autres formes, soit en assumant d'être sur un territoire palestinien, donc continuer à travailler avec le logo MDM, sans le logo MDM, s'associer à des associations locales, j'en sais rien. Ça va dépendre aussi des questions de sécurité, est-ce qu'ils vont continuer à tuer nos staffs ou pas, parce que le bombardement continue, parce que c'est pas fini, on est dans une période de désarmement du Hamas, tout peut se passer. Il y a des bombardements presque quotidiens encore à Gaza, il faut pas l'oublier. Et il y a 20 000 personnes, je l'ai évoqués, qui sont en train de mourir à petit feu, qu'on n'arrive pas à évacuer, l'aide n'arrive pas à rentrer de manière proportionnée. L'UNICEF a été banni de Gaza. L'UNDP, qui est une agence des Nations Unies, a été banni sous prétexte que dans ce qui rentrait en termes de matériel, de bouffe et autres, il y avait un peu d'essence ou de je sais pas quoi. En fait, toutes les conditions sont créées pour que tous les organismes des Nations Unies qui représentent le multilatéralisme, une certaine idée du multilatéralisme dans le champ de relations internationales, ça dégage. Les ONG indépendantes comme MSF et MDM, ça dégage. Et dans le même temps, on facilite l'entrée d'organisations qui sont alignées sur le discours colonial de Trump, qui ferment leur gueule, si je peux me permettre, sur ton antenne, d'utiliser ce mot, qui vont prendre plein de pognon pour reconstruire Gaza, déradicaliser Gaza. Ce sont des organisations plutôt d'obédience américaine, évangélistes, entre autres, mais pas que. Il y a aussi quelques organisations françaises qui acceptent de se taire et d'être simplement dans de l'action sans donner une profondeur d'analyse et de sens à ce qu'ils font. En fait, nous, évidemment, on est sur une ligne de crête parce que non seulement on ne veut pas abandonner nos équipes, c'est quand même 120 personnes à Gaza, c'est 1 million de personnes qui sont en tension alimentaire aujourd'hui. C'est 20 000 patients qui sont en train de mourir, je l'ai évoqué. C'est d'ici avril, donc c'est-à-dire demain, au moins 100 000 enfants malnutris, aigus, sévères. Et donc, c'est difficile pour nous à la fois de continuer à travailler dans les conditions que j'évoque et sans être complices d'acteurs qui feront le travail de service après-vente, de la violence, de la colonisation, pour aider à la construction de la Riviera de Trump. Donc on est sur cette ligne de crête en permanence qui nous rend fous d'une certaine manière. Alors, on est guidé par le fait de rester auprès de nos équipes. Voilà, donc on a une épée de Damoclès, on risque de dégager, on va travailler différemment. Jusqu'à un certain point, jusqu'au jour où ils tueront nos équipes, ça a déjà été le cas. On a déjà perdu un médecin, nous, MSF a perdu 16 personnes. L'UNRWA, qui est quasiment aussi empêchée de bosser aujourd'hui, a perdu 300 personnes. Et dans le même temps, je peux te dire qu'en Cisjordanie, la colonisation, ça s'accélère. Il n'y a jamais eu autant de checkpoints, il n'y a jamais eu autant de violences. C'est des dizaines de milliers de personnes qui sont évacuées, qui ne rentreront pas chez elles. C'est le siège de plusieurs villes, Jenin, Tudurkarem, depuis 2025, avec un développement militaire comme jamais on l'a vu, c'est-à-dire des chars, des bombardements, des destructions massives, avec le fait assumé de coloniser à terme totalement la Cisjordanie. C'est ça, aujourd'hui, l'horizon des Palestiniens. C'est plus de Cisjordanie, c'est plus de Gaza, un État palestinien qui est une fiction. On se demande où est l'accord français soutenu aux Nations Unies en septembre. Je crois que c'était avec les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite, pardon. Voilà, ça n'existe plus. Enfin, en tout cas, c'est une fiction, l'État palestinien. Aujourd'hui, on est dans une éradication qui continue. Et c'est vrai que le conflit au Liban et en Iran, et c'est légitime qu'on en parle pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais il occulte la dynamique d'anéantissement, voire de génocide qui continue et qui s'accélère à Gaza dans un silence et une complicité démentielle de la communauté internationale. Je pourrais revenir sur la manière dont la France, dont le ministre Haddad de l'Europe, contribue aussi à délégitimer les ONG. Il a demandé une enquête sur les organisations internationales auprès de l'Europe qui ont été financées pour s'assurer, c'était en décembre 2025, que nos organisations, via nos financements européens, n'ont pas contribué au financement du Hamas. Donc il contribue, monsieur Haddad, il contribue à la délégitimation opérationnelle, symbolique, politique de nos organisations, d'MDM, d'MSF. Il est aligné sur le discours d'extrême droite, suprémaciste, colonial, de Trump et de Netanyahou. Et c'est notre ministre, c'est affligeant. Et là, il est dans un acte tangible. Cet acte tangible de nous mettre la pression au travers d'une enquête à l'échelle européenne, c'est pas des mots de gesticulation, d'énonciation.
Bien sûr.
C'est un acte tangible. Et alors là, pour le coup, ils sont présents quand il s'agit de nous mettre des bâtons dans les roues.
Akessa et ensuite Agnès.
Comme mon voisin a lancé les hostilités, je me permets d'embrayer. Une de mes spécialités dans mes recherches, c'est de travailler sur la diplomatie d'influence. Moi, la chose qui me fascine, c'est quand même qu'on a au Liban, si mes calculs sont bons, et c'était hier soir tard, alors je n'affirmerai pas, on a plus de 60 écoles qui sont aujourd'hui soutenues, reconnues par la France comme des écoles qui peuvent faire passer des diplômes français avec un objectif clair, faire venir des Libanais faire leurs études supérieures en France. C'est aussi une réponse à une demande sociale d'une partie des classes supérieures libanaises, bien sûr. Mais moi, je trouve ça absolument terrifiant que quand on a un tel pouvoir, parce que de fait, 65 écoles, c'est des enseignants qui parlent français, c'est des élèves qui parlent français, c'est des familles qui parlent français. Quand on a une telle influence politique, de ne pas s'en saisir pour en faire quelque chose, moi, je trouve ça absolument terrible. Et par exemple, dans les premiers jours de l'offensive, la chose que je ne me suis pas expliquée, c'est pourquoi est-ce que l'ambassade n'acceptait pas d'ouvrir ses écoles, d'ouvrir ses infrastructures pour accueillir une partie des réfugiés. Alors, j'ai parfaitement conscience que ça implique derrière de nettoyer les écoles, de potentiellement racheter du matériel, que c'est un coût pour les institutions gestionnaires, et je sais, et pour avoir travaillé sur elles, je me doute bien que c'est pas facile à prendre comme décision, mais il n'empêche que symboliquement, il y a des choses qu'on peut faire. Politiquement aussi, par ailleurs, ce serait bien de venir et de connaître les terrains dont on parle, parfois c'est mieux, de reconnaître, ne serait-ce que c'est Israël qui bombarde. C'est en 2024, il me semble, qu'il y avait eu Jean-Noël Barrot qui était allé au Liban et qui avait du mal à assumer et à affirmer que les bombardements étaient des bombardements israéliens. J'étais quand même, ce serait bien de reconnaître qu'il y a des belligérants. Et c'est vrai, enfin, moi je pense que cette affaire de la diplomatie d'influence et de cette idée qu'il faut être le plus influent possible, qu'il faut qu'on parle français, qu'il faut que la langue française se diffuse, permet aussi de ne jamais avoir à prendre ses responsabilités politiques. Parce que du coup, on va en permanence se positionner comme un acteur qui veut avoir de l'influence, qui veut avoir du pouvoir, qui veut être reconnu. On va ouvrir des écoles, on va légitimer des infrastructures, etc. Mais sans jamais avoir à se positionner politiquement. Et ça, je pense que c'est un tournant plus large où, en fait, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le multilatéralisme. Ça date, évidemment, du 7 octobre et de ce qui se passe spécifiquement par rapport à Israël, où on a complètement enterré toute ambition multilatérale. Mais je pense que c'est plus large aussi, de rapports de force plus anciens qui s'étaient, il me semble, complètement transformés au point où on est dans des situations où les États tentent d'affirmer leurs influences mutuelles, réciproques, dans des territoires qui sont joués comme influençables, quelque part, mais où on n'essaye plus du tout d'utiliser cette influence politique pour en faire quelque chose. Au détriment de nos propres personnels, puisqu'en l'occurrence, pour parler de ce que je connais, les enseignantes du lycée français de Nabatier, elles sont livrées elles-mêmes, et la France ne... Enfin, l'école en tant que telle fait évidemment ce qu'elle peut, mais on n'est pas du tout dans une situation où on tente d'aider et de soutenir les populations.
Agnès, est-ce que vous avez des explications autres, supplémentaires, sur la tétanie de la diplomatie française?
Moi, ce que j'ai constaté, c'est que notre ministre des Affaires étrangères n'a pas réussi à dire que les frappes étaient disproportionnées au Liban. Dans une interview récente, on lui a demandé s'il adoptait cette terminologie. Il n'a pas répondu. Alors que Le Drian, qui est l'envoyé spécial de Macron pour le Liban, lui, quand même, a reconnu qu'il y avait un usage disproportionné de la force. Ce que ça veut dire simplement, c'est qu'on a aujourd'hui, de toute façon, en Europe, à l'exception de l'Espagne, de l'Irlande, de quelques pays qui tiennent véritablement une position claire, nette, et en particulier l'Espagne, c'est absolument remarquable. Les autres pays sont dans une logique de ne surtout pas contraindre Israël. Il y a cette idée au sein de la diplomatie française aujourd'hui qui est de dire on essaye de se rabibocher avec Israël après les tensions qu'il y a eu sur Gaza, avec la question de la reconnaissance de l'État palestinien. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse. C'est vrai que quand il y a eu la reconnaissance de l'État palestinien, j'ai trouvé que c'était une bonne chose, même si cette décision arrivait bien tard, dans des conditions plus que contestables. Mais bon, il y avait eu quand même quelque chose. Or, quand on voit ce qui se passe depuis, ça a été une belle déclaration. Je pense que Macron s'est donné bonne conscience, mais de toute façon, il n'y a aucun fait qui est enregistré qui permet de donner une quelconque réalité à cette décision. Donc, voilà, c'est une fiction totale. Et donc, Macron, du coup, cette annonce a quand même énervé les Israéliens. Et donc, depuis, la diplomatie française ne sait pas comment faire pour améliorer la relation. Et on l'a bien vu dans tout ce qui se passe depuis, eh bien, la France ne condamne absolument rien de la stratégie d'Israël, qui est quand même une stratégie absolument délirante dans l'ensemble de la région. Donc, on a aujourd'hui... Alors, je vois dans le chat, il y a une évocation de Elnet. Et c'est vrai qu'il y a des mesures qui sont prises par notre ministre. Je ne savais pas l'histoire de Benjamin Haddad contre les soupçons de financement ou du Hamas qui aurait tissé des liens auprès de toutes les associations pour défendre ses intérêts. Quand on voit ce que fait Elnet et comment Elnet, qui est ce lobby pro-israélien clair et assumé en tant que tel, hein, quand on voit comment Elnet fait de l'entrisme, alors évidemment auprès des politiques, ça, il y a un nombre de députés qui vont régulièrement en Israël, tout frais payé par Elnet, avec un discours très élaboré pour justifier tout ce que fait Israël, mais aussi auprès des centres de recherche, où on a Elnet qui offre des voyages et des entretiens à un certain nombre de chercheurs. On a même des chercheurs qui font partie du conseil d'administration de Elnet France, ce qui en dit long sur cette capacité à vouloir faire bouger les choses. Donc, c'est un élément qui, pour moi, est aussi problématique que celui qui est dénoncé. On dans tous les cas, de la part de l'autre côté. Donc je pense que dans cette logique aujourd'hui, il y a eu tout un travail finalement qui a été fait et qui porte complètement ses fruits aujourd'hui, avec tout un réseau, si on parle de la France en tous les cas, qui permet de mobiliser les forces nécessaires pour relayer complètement ce discours du gouvernement israélien. Et ce qui est particulièrement quand même choquant aujourd'hui, c'est qu'on a un gouvernement israélien d'extrême droite. Enfin, la dernière mesure qui a été prise cette nuit par le Parlement, qui va permettre la peine de mort contre tout Palestinien catalogué de, entre guillemets, de terroristes. Alors là, c'est la porte ouverte. Alors là, j'ose même pas imaginer ce qui va se passer. Alors là, s'il n'y a pas une mesure forte de la part des pays européens occidentaux qui passent leur temps à dire que les droits de l'homme, c'est essentiel, alors là...
C'est la petite corde jaune portée en pins, hein, c'est ça, c'est le symbole de cette,
absolument,
de cette loi. Voilà.
Et dont le ministre qui l'a portée juste a ouvert le champagne à la Knesset une fois qu'elle a été adoptée hier soir. Il a ouvert le champagne dans le Parlement israélien quand même.
Elnette, qui soupçonnait, nous rappelle le chat d'ingérence sur dans les municipales en France, et notamment à Toulouse, on recevait hier François Piquemal, le candidat malheureux de LFI, qui justement va porter plainte contre.
Alors j'en profite juste pour faire un petit lien avec quand même un sujet qui nous préoccupe majoritairement en France aujourd'hui, c'est la fameuse loi Yadan. Et là, je pense que la mobilisation doit être vraiment à la hauteur du danger que représente cette loi. Il y a une pétition qui circule sur le site de l'Assemblée nationale pour essayer d'avoir le plus de signatures possibles. Donc je demande à toutes les personnes qui nous écoutent...
Alors il faut rappeler la loi, ce qu'elle prévoit.
Bon, en gros, je vais faire très court, mais après vous pouvez aller lire le texte, hein. C'est que toute critique d'Israël est assimilée à de l'antisémitisme et donc vous êtes passible de poursuites. Donc tout ce qu'on dit là aujourd'hui, si la loi passe, alors là, on est convoqué immédiatement. Donc, je demande à tout le monde, de tous ceux qui sont sensibles à ça, mais véritablement, hier, il y avait à peu près 10 000 signatures, il en faut 100 000, donc il y a encore vraiment du travail, mais là, il faut vraiment qu'on se mobilise. On ne peut pas accepter qu'une loi, alors elle est portée par Caroline Yadan, qui est la députée des Français de l'étranger, qui a Israël dans sa circonscription. Voilà, donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment se mobiliser.
La pétition, merci Uriel, toujours rapide, et dans le chat.
Allez-y, signez.
Elle est censée passer quand cette loi ?
Elle rentre en discussion en avril.
Elle a déjà passé la commission, hein, et donc.
C'est ça.
Comment ça a pu passer, la commission ?
Monsieur Hollande, Monsieur Gage, oui, socialistes, ont voté pour ça. C'est terrifiant, en fait, parce que, comme le disait Agnès, cette loi, bon, il y a plus de détails, mais en gros, le nœud du problème a été évoqué. C'est une régression démocratique totale. Et on voit comment aussi les déflagrations du conflit de Gaza se propagent, y compris dans nos propres démocraties, au travers de ce dispositif juridique qui va peut-être contraindre, hein, un espace de discussion, un espace démocratique constructif qu'on souhaite toujours dans notre régime, mais qui s'inscrit aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans tout un tas d'éléments de délégitimation d'acteurs comme MSF, MDM, qui sont plutôt des émanations. Nous sommes des émanations de sociétés civiles issues de régimes démocratiques, hein, sans frontières des années 70. Ça s'est fait dans des régimes démocratiques pour ensuite porter des valeurs de solidarité, de liberté et autres. Ben, on est délégitimés. Et le relais de la presse et des médias mainstream est important. Certains, on l'avait déjà évoqué ensemble, hein, mais certains éditorialistes d'LCI ou autres, dès fin 2023, alors même que le génocide commençait à prendre corps à Gaza, expliquaient que le problème, c'était pas que des civils meurent par milliers, mais c'est qu'il y ait potentiellement des ONG qui soient complices du Hamas, qui s'occupent pas assez des otages, alors même que c'est pas dans notre rôle. On n'a pas la capacité, moi mon ONG n'a pas la capacité politique, symbolique, opérationnelle, de s'occuper d'otages ou de prisonniers. C'est le rôle du CICR ou de la Croix-Rouge, entre autres. Mais c'est, ce que je veux dire, c'est qu'on voit comment, au travers de ce conflit, se joue aussi et je parle de la société israélienne, on pourra en parler aussi parce qu'il y a une frange de la société israélienne qui souffre aujourd'hui de voir son pays sombrer dans l'extrémisme, le radicalisme, voire le fascisme. Eh bien, on voit que ça déborde chez nous et que les relais ici d'une certaine extrême droite qui surfent sur ce contexte-là détruit, enfin, accentue les tendances illibérales au travers de l'enjeu de Gaza pour notre propre espace démocratique. Et c'est très inquiétant, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser et que ce qui se joue à Gaza, c'est aussi chez nous un petit peu de notre propre démocratie à certains égards.
Okay, ça.
Je voulais rebondir sur des questions qui étaient posées dans le chat et sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais je souscris à tout ce qu'ont dit mes deux comparses. Sur cette question...
Vos comparses, hein, d'ailleurs, au bout de 1h10, ça y est, là, c'est bon, on est à l'aise. Très bien.
Je voulais rebondir sur cette question des diplomates et de la diplomatie. Il y a eu plusieurs questions dans le chat. Je ne parlerai pas pour Israël parce que j'en sais rien, mais pour le cas du Liban, ce ne sont pas encore, en tout cas, des gens qui ne sont pas diplomates de métier. L'ambassadeur de France à Beyrouth, le consul de France à Beyrouth, les chargés de diplomatie culturelle sont quasiment tous des diplomates de métier qui ont une longue ancienneté, notamment parce que le Liban est vu comme un territoire stratégique hein, pour la France. Et pour le coup, je pense que ce n'est pas lié à la réforme d'Emmanuel Macron de la diplomatie qu'on soit si faible sur la question libanaise. Je pense que c'est vraiment un enjeu politique et une volonté politique de ne pas prendre position. Parce que pour le coup, ce n'est pas une question d'incompétence des gens qui sont en poste. Les gens qui sont en poste ont des parcours de diplomates. C'est des diplomates depuis très longtemps qui défendent, qui pour le coup, sont en tout cas réputés comme étant compétents et ont vraiment un parcours diplomatique qui laisse penser qu'ils sont compétents pour les postes qu'ils occupent. En revanche, je pense que personne n'a envie de prendre position dans cette affaire. À mon avis, peut-être aussi pour des raisons politiques toutes bêtes. Par exemple, quand Emmanuel Macron annonce sa volonté de développer l'enseignement français à l'étranger et la francophonie, il le fait en Israël. Tout bêtement, le premier discours avec lequel il annonce cette réforme, c'est un discours devant la communauté française israélienne. Et je pense qu'il y a vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, un enjeu de... Il faut être présent partout, il faut surtout pas prendre position, il faut se coincer avec personne. Donc on va afficher qu'on défend les Libanais, on va affirmer d'ailleurs qu'on défend les Libanais, on va les aider à justifier le cessez-le-feu, on va les soutenir quand ils disent qu'ils veulent désarmer le Hezbollah, mais on va pas aller plus loin que ça, au-delà des déclarations, de même qu'on va essayer de pas trop froisser Israël, parce qu'en fait, il faut qu'on garde de l'influence dans les deux territoires, et ça nous renvoie peut-être aussi un peu aux enjeux économiques qu'il y a derrière tout ça. Le Liban, c'est un territoire où il y a de vrais enjeux économiques, la reconstruction du port de Beyrouth, les potentiels ressources gazières et pétrolières dans les eaux territoriales libanaises. En Israël, il y a ne serait-ce que des contrats d'armement, que pour parler de ce qui est évident, mais je pense que ce n'est pas du tout les seuls enjeux économiques. Et donc, il y a, à mon avis, aussi tout bêtement un enjeu de « faut surtout pas se froisser avec eux », parce que c'est des potentielles ressources économiques pour nous à terme.
Alors, moi, je crois que c'est plus grave que ça. Je pense que la question économique peut-être, mais je pense que c'est beaucoup plus une question véritablement idéologique. Et moi, c'est ça que je trouve qui est beaucoup plus grave et qui est beaucoup plus dramatique. Et avec l'idée, moi, je crois qu'Israël a réussi à faire passer l'idée que ce pays nous défendait, nous, les Occidentaux, donc nous, les Français, que c'était la pointe avancée de la civilisation. Et là, je reprends des propos utilisés par certains Israéliens. C'est la pointe avancée de la civilisation. On vous défend. Le nombre de fois où j'ai entendu cette expression, tout ça, évidemment, venant dans la foulée du 11 septembre, les attentats du 11 septembre.
Et donc, la guerre en Ukraine aussi, on vous défend.
Bien sûr. Et donc, l'idée, c'est que vous ne pouvez pas nous critiquer et il faut absolument nous défendre coûte que coûte, quoi qu'on fasse, parce que sinon, c'est se remettre en question soi-même. Et donc, faire ce travail, c'est absolument impossible. Et Macron, qui est dans le « en même temps », est complètement là-dedans. Et donc, moi, ce qui me frappe, c'est comment un État, avec ses relais, a réussi à imposer ce narratif, pour reprendre un terme à la mode, mais qui est ancien et qui a été complètement renforcé et légitimé par Israël par le 7 octobre. Et quand je dis ça, je justifie en rien le 7 octobre, mais ce 7 octobre a été véritablement récupéré, instrumentalisé par Israël, qui permet aujourd'hui de faire absolument ce qu'il veut.
Alors,
dans ce contexte.
À propos d'instrumentalisation, parce qu'il est déjà 9h15, il nous reste 15 minutes, parce que vous avez beaucoup de choses à faire, évidemment, et merci beaucoup de prendre le temps de venir ici pour nous donner toutes ces informations et vos analyses, parce qu'on est allé rapidement, mais le Hezbollah est accusé d'être la marionnette de l'Iran, hein, très, très régulièrement, je lis ça, j'entends ça, et que c'est donc une des raisons de la précipitation de l'offensive israélienne sur le Liban. Par rapport à ça, les liens entre le Hezbollah et l'Iran, à la lumière de ce qui se passe avec les Américains, qu'est-ce qu'on doit en savoir ?
Parce que ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que le Hezbollah a, alors est un parti libanais avec une dimension éminemment libanaise, qui a été rappelée, hein, avec un parti politique, avec des ministres au sein du gouvernement, des députés au Parlement. Mais c'est un parti qui a été effectivement créé avec l'appui du Hezbollah. Et qu'aujourd'hui, les gardiens de la révolution, enfin l'Iran étant en difficulté, les gardiens de la révolution ont continué à investir et à soutenir le Hezbollah de façon importante. Les financements du Hezbollah viennent en partie de l'Iran et qu'on a vu ces derniers temps quand même un certain nombre de responsables des gardiens de la révolution au Liban pour justement soutenir le Hezbollah et mettre en place une stratégie parce que les gardiens de la révolution ont besoin de soutien parce qu'aujourd'hui c'est un pays très seul, très isolé sur la scène régionale et internationale et que le seul appui véritable dont ils disposent c'est le Hezbollah et quelques milices pro-iraniennes en Irak. Donc oui, il y a un lien structurel extrêmement important entre les deux, mais ce qui n'enlève rien au fait qu'il y a aussi une dimension libanaise très bien importante sûr. Et qu'il ne faut absolument pas mettre de côté. Mais donc c'est au nom de ce lien fort et de la présence de ces gardiens de la révolution que Israël, qui s'est lancé dans cette guerre contre l'Iran avec le soutien américain, évidemment considère qu'il faut absolument en faire de même avec le Liban et de poursuivre ce travail qui avait été entamé contre le Hezbollah en 2024. Et donc là, maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Mais moi, c'est ce terme de jusqu'au bout que je trouve absolument aberrant, puisque je ne vois pas comment on peut faire disparaître, à moins de faire disparaître toute la communauté chiite libanaise, estimant que c'est forcément des soutiens du Hezbollah.
À qui ça ? Et Jean-François ?
Juste pour ajouter, il y a eu un bras de fer, il me semble, hier. Avant-hier, en tout cas ces derniers jours, entre le gouvernement libanais et le Hezbollah, justement à propos du départ de l'ambassadeur d'Iran à Beyrouth, puisque le gouvernement libanais avait demandé le départ de l'ambassadeur d'Iran dans une volonté de montrer encore une fois qu'ils n'étaient pas des infidèles de l'Iran et qu'il ne fallait pas les bombarder pour cette raison. Le Hezbollah s'est opposé, soutenu par le chef du Parlement, qui est le président Hamal, qui est le deuxième parti chiite au Liban, en disant qu'il était hors de question d'éjecter l'ambassadeur d'Iran de Beyrouth, qu'il allait rester et qu'il fallait faire front avec les frères iraniens. Donc, il ne faut quand même pas penser que Hezbollah ne fait que défendre l'Iran. Il a été fondé en 1982 dans une idée, dans le contexte de guerre civile au Liban, mais dans cette idée de lutter contre la présence israélienne. Mmh. Donc, il ne faut pas du tout en faire qu'un affidé de l'Iran. Ce n'est pas que ça, mais c'est ça en partie, bien sûr.
Mais c'était aussi pour... Pardon, je finis juste sur ce mot, parce que dans ces liens avec l'Iran, parce que c'est très important, même si on est tout à fait d'accord sur le fait qu'il y ait la dimension libanaise, mais c'était aussi dans le cadre de ce projet de la République islamique d'exportation de la révolution islamique. Mmh. Et que le premier terrain d'exportation de ce projet politique élaboré par les fondateurs de la République islamique, c'était l'exportation de la révolution. Et le terrain favorable, propice à ce projet évoqué par les Iraniens, c'était le Liban à travers la création du Hezbollah pour, en s'appuyant sur la communauté chiite libanaise.
Donc je me fais l'avocat du diable, c'est quand même un argument de poids.
Pour Israël, bien sûr. Israël. Mais bien sûr que c'est un argument de poids. Mais simplement,
on peut pas balayer ça, quoi.
Voilà, bien sûr. Non, c'est un argument et qui a ça, auquel il faut répondre. Mais la seule question, c'est que Israël ne se perçoit et ne se conçoit que dans un rapport de force avec l'ensemble de ses voisins. Et c'est évidemment pas comme ça qu'Israël peut faire partie de ce Moyen-Orient. Aujourd'hui, Israël est dans cette région, il fait partie de cette région, même si on peut remettre en question les conditions dans lesquelles. Mais cet État, il est là, il existe, les Israéliens sont là. Est-ce que la seule façon qu'Israël ne se conçoit que dans un rapport de force parce qu'il est le plus fort ? Est-ce que c'est comme ça qu'il peut se faire accepter ? Bien sûr que non. Et donc, toute sa stratégie qui consiste à combattre tout le monde est une stratégie absolument dramatique.
Oui, juste, je suis d'accord avec ce qui a été dit avec deux spécialistes.
Arrêtez d'être d'accord.
Mais c'est deux spécialistes. Deux spécialistes. Non, mais j'amènerai une nuance sur le fait qu'il y a une dimension proxy, on va dire, de l'Hezbollah vis-à-vis de l'Iran, et puis une dynamique très libanaise, comme vous l'avez rappelé. Effectivement, l'Iran a voulu, avec Khomeini, prolonger la révolution
notamment dans ces pays proxys, mais c'est devenu aussi un moyen d'entretenir un rapport de force régional, parce que cette idée de faire vivre la révolution au travers de certaines valeurs, enfin, moi j'ai vécu en Iran 2 ans, et je travaillais pour MSF à l'époque, auprès des réfugiés, notamment afghans, c'est-à-dire 1,5 million, 2 millions. Début des années 80, on accueillait à bras ouverts les réfugiés afghans, parce que c'était des frères musulmans, notamment la communauté chiite, parce qu'il y a des chiites, des sunnites en Afghanistan, entre autres. Mais avec la crise économique, le conflit irakien, les Afghans qui étaient les frères avec lesquels on allait vivre la révolution islamique, c'est devenu un problème, c'est devenu un peu nos travailleurs immigrés ici qui ont la responsabilité de tous leurs maux. Donc, c'était juste pour dire que si l'idée d'exporter la révolution était légitime au départ, il y a eu d'autres dynamiques, il me semble, dans le fait d'entretenir relations de proxy avec le Hezbollah. Voilà, il me semble. Et peut-être, parce qu'on va bientôt terminer, si je peux avoir 2 mots. D'abord pour la situation en Iran, parce que aujourd'hui on estime qu'il y a près d'un 2 millions de personnes qui sont déplacées, c'est au 1 000-1 500 morts, mais c'est pas très très clair, c'est des hôpitaux qui sont détruits, des centres de santé. On se pose la question évidemment de savoir quels sont les buts politiques des Israéliens et des Américains, est-ce que c'est de changer de régime ou autre, en décapitant toute la logistique humaine du pouvoir de Khamenei, en passant par différents Larijani et autres différents acteurs politiques. On se questionne sur les intentions politiques mais stratégiques. Mais ce qu'on voit, c'est que les bombardements impactent des centres militaires, mais aujourd'hui, j'évoquais des hôpitaux, bien sûr des infrastructures balistiques. Mais aussi des usines de désalinisation, des usines électriques, des centrales nucléaires potentiellement. Alors là, on était affolés quand on bombardait Zaporizhzhia en Ukraine. Là, aujourd'hui, le fait qu'on bombarde des infrastructures potentiellement nucléaires civiles en Iran, il n'y a personne qui s'énerve de ça, avec le risque, c'est une petite remarque. Mais en fait, ce que l'on voit...
Mais une petite remarque va au bout, parce que...
On est dans un deux poids deux mesures du droit international humanitaire. La Cour pénale internationale, qui a un mandat d'arrêt pour Poutine, alors c'est super, il faut la soutenir, mais quand il s'agit du mandat d'arrêt sur Netanyahou, il n'y a plus personne. Et ce que je veux dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, en bombardant comme ça massivement l'Iran, en bombardant les infrastructures essentielles aussi, on est en train de créer une crise humanitaire majeure aussi, si ça continue. Parce que le Croissant Rouge, hein, j'ai travaillé avec eux à BAM, sur le tremblement de terre de BAM, j'ai bossé aussi avec eux... J'étais pas dans leur équipe, mais en partenariat, j'ai vu sur le terrain aussi au Pakistan, tremblement de terre en 2005. Ils ont la capacité de répondre à des besoins pour 3-4 millions de personnes. Ils ont des chaînes de production de médicaments et autres. Mais eux-mêmes, ils sont bombardés. Eux-mêmes, ils ont des morts aussi. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'impression qu'en termes de stratégie, ces bombardements israélo-américains ont pour vocation de renvoyer l'Iran au 19e siècle et donc de les affaiblir, mais au point d'entraîner potentiellement un chaos, une guerre civile, comme on l'a vu en Libye, comme on l'a vu en Syrie, parce que les bombardements, ça n'a jamais amené la démocratie. Hein, ça, il faut être très clair, même si c'est dans la rhétorique et le récit. Et donc, je m'inquiète parce que je vois potentiellement un pays qui peut être en partition avec des dynamiques baloutches, azéries, on dirait ethnique entre guillemets, même si le terme n'est plus trop approprié. Il y a ce risque-là. Et tout ce qu'on voit dans les bombardements aujourd'hui, c'est aussi faire mal à la population civile, en imaginant qu'il y aura un soulèvement face à un régime qui, n'ayant pas peur des mots, est un régime sanguinaire. Et je trouve que c'est terrifiant parce que, d'abord, c'est d'un point de vue humain et d'un point de vue humanitaire, c'est compliqué aujourd'hui d'intervenir en Iran. Et puis parce que, aussi, j'ai beaucoup de peine pour tous les amis que j'ai en Iran. Et peut-être le dernier point... C'est aussi à la situation en Israël pour les civils qui vivent dans un régime d'extrême droite suprémaciste avec tous les délires qui sont en train de s'affirmer. On l'a évoqué avec la dernière loi sur la peine de mort. Il y a quand même des milliers de blessés. Il y a un système de santé qui tient à la route et un système de défense qui fait qu'il n'y a quand même pas trop de morts civiles proportionnellement par rapport à ce qui se passe au Liban, à Gaza ou en Israël. Mais qu'il y a quand même une frange, il y a une population civile qui court aux abris régulièrement, qui n'est quand même pas une vie très sympa. Les relais que tu peux avoir là-bas sont aussi pour certains notamment ceux qui défendent une vision alternative à l'extrémisme d'aujourd'hui de Netanyahou, sont en difficulté, à la fois pour leur propre vie, même s'ils arrivent à vivre, et surtout n'ont pas de perspective par rapport à une dynamique démocratique qui est en train de s'effilocher. Et je trouve que c'est problématique. Et je pense aussi à... Je suis en train d'écrire un ouvrage que j'espère qu'on viendra présenter avec toi, qui sortira en septembre avec Nava Effetz, qui est une rabbine libérale engagée dans les guerres de la paix, qui à la fois revendique le fait qu'Israël peut vivre
tout de suite.
Voilà, mais qui en même temps s'insurge contre la colonisation et les radicalisations en cours en Cisjordanie et à Gaza, et qui aussi, sur le mode de ce que j'évoquais tout à l'heure, explique comment la déflagration se porte aussi au sein de la société israélienne, qui est fracturée, qui est en souffrance. Et je pense qu'il faut avoir une pensée aussi pour une frange de la population israélienne qui voit son pays malmené par des dynamiques internes qui le remettent en question, quoi.
Alors à chacune, le mot de la fin, un peu comme Jean-François vient de faire le sien, il faut dire que je vois, il ne le sait pas, mais je vois son téléphone qui n'arrête pas de clignoter. À mon avis, on l'appelle de partout, là. Alors Akessa et Agnès, ce sera à vous, voilà.
Juste, je voulais ajouter un tout petit point sur le déclenchement de la dernière offensive israélienne, le samedi, au moment où se déclenche l'offensive entre l'Iran contre l'Iran de la part d'Israël et des États-Unis. J'étais naïvement en train de regarder pour prendre des billets pour aller au Liban cet été, mais ça, c'était le mois naïf d'il y a un mois. Mais surtout, j'écris à mes amis en leur demandant comment elles vont, et à Nabati, tout le monde était convaincu que ça finirait par repartir. Et ce que je voulais dire en disant ça, c'est bien sûr que le Hezbollah a utilisé comme argument notamment la mort du guide suprême iranien pour justifier les bombardements à l'encontre d'Israël, mais le fait est que tout le monde savait que ça finirait par repartir et qu'il trouverait un argument pour faire repartir le conflit. C'est pas du tout pour minimiser le poids de l'Iran dans le fonctionnement du Hezbollah, mais le fait est que tout le monde savait qu'il voulait finir le travail et qu'il trouvera un moyen de recommencer l'offensive. Et je suis donc ravie qu'on ait pu un peu énerver l'humanité sur ce qui est en train de se passer au Liban. Sachez que nous, on l'est. Hein. Je pense que la rage se sent quand même, ici en plateau en tout cas, sur à quel point tout le monde est très en colère de ce qui se passe. Et donc je suis ravie qu'on ait pu participer un peu à éclairer les choses et aussi à énerver les gens sur ce qui se passe. En tout cas, moi, je le suis beaucoup, même si je ne le demande pas énormément.
Merci beaucoup. Agnès, le mot de la fin pour vous.
Moi, je vois qu'on fait référence à la trilogie de Frédéric Pollin, et donc je vous conseille la lecture de cette trilogie sur le Liban, que j'ai trouvée vraiment très, très, très intéressante. J'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui avaient accepté de signer la pétition, donc relayée partout. C'est vraiment un point extrêmement important. Maintenant, moi, je suis extrêmement inquiète de ce qui se passe dans l'ensemble de la région. Le mot est faible. Je crains maintenant que les Israéliens et les Américains sont allés tellement loin en Iran que je crains qu'ils ne puissent pas se retirer facilement sans aller encore plus loin. Et là, je vais en profiter pour dire un mot, parce qu'on l'a beaucoup dit, mais pour moi, c'est essentiel. Là, on a des sociétés dans la région aujourd'hui qui sont littéralement fracassées par ces bombardements incessants menés par Israël, les Américains, par cet axe israélo-américain qui essaye, dont l'objectif est véritablement de reconfigurer ce Moyen-Orient sous les objectifs définis par Israël, qui ne tiennent en aucun compte des sociétés qui habitent dans ces régions, que ce soit les Iraniens, que ce soit les Libanais, que ce soit les Yéménites qui ont été touchés aussi, les Syriens, enfin l'ensemble de cette région, les Irakiens, est véritablement fracassé par cette violence, avec des objectifs de la part des Israéliens, alors de Netanyahou qui est de plus en plus de sauver sa peau au prix de mettre la région à feu et à sang, et avec un Trump qui s'amuse, clairement, qui s'amuse en disant tout et son contraire, disant quelque chose un jour et disant exactement le contraire. Et ça, je trouve que c'est absolument terrifiant de se dire qu'on est dans un monde où plus aucune règle ne tient, que ce droit, on n'a pas prononcé le mot quand même de droit international pratiquement de tout cet entretien, qu'on a un droit international qui est complètement malmené, foulé du pied par ceux qui sont censés le faire respecter, donc les Américains, mais nous aussi, les Français, nous sommes signataires de toutes les conventions que nous ne respectons pas dans le cadre de ce qui se passe au Moyen-Orient. Je n'ai pas vu nos autorités condamner les bombardements israélo-américains. Alors, le régime des Mollahs, de iranien, je ne le soutiens pas, évidemment, mais les bombardements se font dans un cadre illégal qui va à l'encontre du droit international. Jusqu'à quand on va accepter? J'ai encore entendu un responsable politique français dire « Oui, mais le droit international, c'est un truc ancien, c'est du passé, il faut passer à autre chose. Si on en
c'est,
est rendu
comme l'état de droit, oui.
à dire des choses comme ça, c'est extrêmement dangereux. Où va-t-on ? Et donc là, il y a une il faut absolument qu'on se mobilise de façon massive face à toutes ces dérives et qui se traduisent en France, je reviens, avec cette fameuse proposition de loi Yadan. Et donc, voilà le message que je voudrais faire passer.
Le chat vous remercie pour vos précisions, vos interventions d'une grande qualité, très précise. Et Sabo Bivan dit partage de colère, de résistance et je dirais d'intelligence. Merci vraiment infiniment à vous trois d'être venus ce matin. Et vous, la petite porte vous est grande ouverte.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Mes amis, nous sommes sur Opposte.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est Opposte, Opposte.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous à Opposte.
J'encourage, faites un don à Opposte. Ah non, c'est là la caméra.
Adonnez-vous Opposte. Adonnez-vous Opposte.
Et faites des dons à Opposte. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à Opposte. Il faut donner
des dons
à
abonnez-vous.
Ça existe.
Amis du café, amis de la police, adonnez-vous Opposte.fr. Opposte.fr. Adonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer les récits, c'est important. Ça passe par quoi ? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir Opposte.
Abonnez-vous !
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à Opposte et à Mediapart, aux deux.
Abonnez-vous !
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Opposte.fr, y'a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là, Bompard soutient Opposte, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas ? Faites un don à Opposte, il ne faut pas que ce soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard, il demande aux gens de faire un don ?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, Opposte.fr.
Bravo. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr.